L'enterrement des rats de Bram Stoker. Si vous quittez Paris par la route d'Orléans, après avoir traversé les fortifications et tourné à droite, vous vous trouverez dans un endroit un peu sauvage et pas du tout agréable. À droite, à gauche, devant, derrière vous, s'élèvent de grands tas d'ordures et de détritus que le temps a fini par accumuler. Paris a une vie nocturne aussi bien que diurne, et un voyageur de passage qui rentre à son hôtel rue de Rivoli ou rue Saint-Honoré, tard dans la nuit, ou qui le quitte tôt le matin, peut deviner, en approchant de Montrouge, s'il ne l'a pas déjà fait, à quoi servent ces grands chariots qui ressemblent à des chaudières sur roues, qu'il trouve arrêtés un peu partout quand il passe par là. Chaque ville possède ses institutions propres, créées à partir de ses propres besoins. Ainsi, l'une des institutions les plus notables de Paris est sa population de chiffonniers. Tôt le matin, et la vie parisienne commence très tôt, on peut voir dans la plupart des rues, placées sur le trottoir en face de chaque cour et de chaque allée, et dans l'intervalle de deux ou trois maisons, comme cela existe encore dans certaines villes américaines, et même dans certains quartiers de New York, des grandes boîtes de bois, où les domestiques ou les habitants vident les ordures accumulées pendant la journée. Autour de ces boîtes se réunissent, puis s'en vont, lorsque le travail est terminé, vers d'autres champs de labeur et vers d'autres pâturages nouveaux, des hommes et des femmes misérables, crasseux et l'air affamé, dont les outils de travail consistent en un sac ou un panier grossier porté sur l'épaule et en un petit râteau avec lequel ils retournent, sondent, examinent dans le plus grand détail les boîtes à ordures. À l'aide de leur râteau, ils ramassent et déposent dans leur panier ce qu'ils trouvent avec la même facilité qu'un Chinois utilise ses baguettes. Paris est une ville centralisée et centralisation et classification sont étroitement liées. Dans un premier temps, alors que la centralisation est en train de devenir effective, ce qui la précède, c'est la classification. Tout est groupé, par similarité ou par analogie, et de ce groupement de groupes surgit une unité entière ou centrale. On voit rayonner une multitude de longs bras aux innombrables tentacules, tandis qu'au centre se dresse une tête gigantesque ayant un cerveau qui a le pouvoir de comprendre, des yeux perçants qui peuvent regarder de tous côtés, et des oreilles sensibles pour écouter, et une bouche vorace pour avaler. D'autres villes ressemblent à tous les oiseaux, bêtes et poissons dont l'appétit et le système digestif sont normaux. Paris, seul, est l'apothéose analogique de la pieuvre. Produit de la centralisation portée à l'absurde, la ville représente bien la pieuvre. Il n'est aucun aspect où cette ressemblance est plus curieuse que dans la similarité avec l'appareil digestif. Ces touristes intelligents qui, ayant abandonné toute individualité entre les mains de messieurs Cook ou Gaze, font Paris en trois jours, sont souvent intrigués par le fait qu'un dîner qui, à Londres, aurait coûté à peu près 6 shillings, peut ne pas dépasser 3 francs dans un café du Palais-Royal. Leur surprise n'aurait plus de raison d'être s'ils voulaient bien considérer la classification comme une spécialité théorique de la vie parisienne et s'adapter à tout ce qui entoure cette donnée à partir de laquelle le chiffonnier a sa genèse. Le Paris de 1850 ne ressemble pas au Paris d'aujourd'hui, et qui voit le Paris de Napoléon et du baron Haussmann peut à peine se rendre compte de l'existence de l'état des choses il y a 45 ans. Néanmoins, on peut compter au nombre des choses qui n'ont pas changé les quartiers où les détritus sont rassemblés. L'ordure est partout la même dans le monde, à toutes les époques, et la ressemblance de famille entre des tas d'ordures est parfaite. Ainsi, le voyageur qui visite les environs de Montrouge peut, sans difficulté, remonter dans son imagination jusqu'à l'année 1850. Cette année-là, je faisais un séjour prolongé à Paris. J'étais très amoureux d'une jeune demoiselle qui, bien qu'elle partageât ma passion, avait si totalement cédé à la volonté de ses parents qu'elle leur avait promis de ne pas me voir ou de ne pas m'écrire pendant une année. Moi aussi, j'avais été obligé d'accepter ces conditions, avec le vague espoir de l'approbation parentale. Durant cette période de probation, j'avais promis de rester hors du pays et de ne pas écrire à ma bien-aimée jusqu'à l'expiration de l'année. Naturellement, le temps me pesait beaucoup. Il n'y avait personne dans ma propre famille ou dans le cercle de mes amis qui pût me donner des nouvelles d'Alice, et aucun membre de sa famille, à elle, n'avait, je regrette de le dire, assez de magnanimité pour m'envoyer ne fût-ce qu'un mot occasionnel de réconfort, touchant sa santé ou son bien-être. Je passais 6 mois à errer à travers l'Europe. Mais comme je ne pus trouver de distraction satisfaisante dans ces voyages, je décidai de venir à Paris, où, au moins, je ne serais pas loin de Londres, au cas où quelques bonnes nouvelles pourraient m'appeler là-bas avant le moment indiqué. que l'espoir différé rend le cœur malade ne fut jamais aussi vrai que dans mon cas, parce que à mon désir perpétuel de voir le visage que j'aimais, s'ajoutait en moi une anxiété qui me torturait, parce que j'avais peur à l'idée que quelque accident pourrait m'empêcher de prouver à Alice, le moment venu, que pendant toute cette longue période probatoire, j'avais été digne de sa confiance et fidèle à mon amour pour elle. Ainsi, chaque voyage nouveau que j'entreprenais me donnait une sorte de plaisir cruel, parce qu'il impliquait des conséquences possibles plus graves que celles qu'il aurait comportées en temps ordinaire. Comme tous les voyageurs, j'épuisais vite les endroits les plus intéressants, et je fus obligé, le second mois de mon séjour, de chercher des distractions là où je le pouvais. Après divers déplacements dans les banlieues les plus connues, je commençais à deviner qu'il existait une terra incognita, inconnue des guides touristiques, située dans le désert social entre ces lieux séduisants. En conséquence, je commençais à faire des recherches systématiques, et chaque jour, je reprenais le fil de mon exploration à l'endroit où je l'avais laissé le jour précédent. Avec le temps, mes explorations me conduisirent près de Montrouge, et je me rendis compte que dans ces parages se situait l'Ultima Thule de l'exploration sociale, un pays aussi peu connu que celui qui entoure la source du Nil Blanc. Et ainsi, je décidai d'investir philosophiquement le monde des chiffonniers, son habitat, sa vie, ses moyens d'existence. La tâche était repoussante, difficile à accomplir, et offrait peu d'espoir d'une récompense adéquate. Néanmoins, en dépit du bon sens, mon obstination prévalant, j'entrepris ma nouvelle investigation avec une énergie plus grande que celle que j'aurais pu avoir dans des recherches dirigées dans un quelconque but, d'intérêt ou de mérite supérieur. Un jour, à la fin d'un bel après-midi dans les derniers jours du mois de septembre, j'entrai dans le Saint des Saints de la ville des Ordures. L'endroit était évidemment le lieu de résidence de nombreux chiffonniers, parce qu'une sorte d'arrangement était manifeste dans la façon dont les tas d'ordures étaient formés près de la route. Je passais parmi ces tas qui se dressaient debout comme des sentinelles bien alignées, décidé à m'aventurer plus avant et à traquer l'ordure jusqu'à son ultime emplacement. Tandis que j'avançais, je vis derrière les tas d'ordures quelques silhouettes passer ici et là, de toute évidence regardant avec intérêt l'arrivée d'un étranger dans un tel endroit. Leur quartier était comme une petite Suisse, et avançant en zigzagant, je perdis de vue le sentier derrière moi. Finalement, j'entrai dans ce qui semblait être une petite ville ou une communauté de chiffonniers. Il y avait un certain nombre de cabanes ou de huttes, comme on peut en trouver dans les parties les plus reculées des marais d'Alan, sorte d'abri rudimentaire composé de murs d'osier et de terre et recouvert de chaumes grossiers faits avec des détritus d'étables, abri tel qu'on ne voudrait pour rien au monde y pénétrer, et qui, même peints, n'ont rien de pittoresque, à moins d'être judicieusement traités. Au milieu de ces huttes se trouvait l'un des plus étranges bricolages, je ne peux pas dire habitation, que j'ai jamais vu. Une immense et antique armoire, vestige colossal de quelque boudoir Charles VII ou Henri II, avait été convertie en habitation. Les deux portes étaient ouvertes, si bien que l'intérieur entier s'offrait à la vue du public. Dans la moitié vide de l'armoire, il y avait un salon d'environ 4 pieds sur 6, où s'étaient réunis, fumant la pipe autour d'un brasier de charbon, pas moins de 6 vieux soldats de la Première République, portant des uniformes déchirés et usés jusqu'à la corde. De toute évidence, ils appartenaient à la catégorie des mauvais sujets. Leurs yeux glauques et leurs mâchoires pendantes témoignaient clairement d'un amour commun pour l'absinthe. Et leurs yeux avaient ce regard hagard et usé, plein de la férocité somnolente que fait naître aussitôt, dans son sillage, la boisson. L'autre côté de l'armoire demeurait comme dans le passé, avec ses rayonnages intacts, si ce n'est qu'ils avaient tous été coupés sur la moitié de leur profondeur, et sur chacune de ces 6 planches se trouvait un lit fait de chiffons et de paille. La demi-douzaine de notables qui habitaient cette construction me regardaient avec curiosité. Et quand je me retournais, après avoir fait quelques pas, je vis leurs têtes rassemblées pour une conversation à voix basse. Je n'aimais pas du tout l'aspect que prenait tout cela, parce que l'endroit était très solitaire et les hommes avaient l'air très, très méchants. Toutefois, je ne vis aucune raison d'avoir peur et continuai, pénétrant plus avant encore dans le Sahara. Le chemin était assez tortueux et, parcourant une série de demi-cercles comme le font les patineurs qui exécutent la figure dite hollandaise, je devins assez conscient que j'étais en train de m'égarer. Quand j'eus avancé un peu plus avant, je vis, contournant l'angle d'un tas d'ordures à moitié achevé, assis sur un tas de paille, un vieux soldat au manteau râpé. « Hé, me dis-je, la Première République est bien représentée ici avec ce militaire. » Quand je passais devant le vieil homme, il ne me regarda même pas, mais il contempla le sol avec une insistance appuyée. De nouveau, je me dis à moi-même, « Tu vois le résultat d'une vie de guerre difficile. La curiosité de ce vieil homme appartient au passé. » Néanmoins, quand j'eus fait quelques pas de plus, je me retournai soudainement et je vis que sa curiosité ne s'était pas éteinte, parce que le vétéran avait levé la tête et me regardait avec une expression bizarre. J'eus l'impression que c'était l'un des six notables de l'armoire. Quand il me vit le regarder, il laissa tomber sa tête. Et sans plus songer à lui, je continuai mon chemin, content qu'il existât une étrange similitude entre ces vieux soldats. Un peu plus tard, d'une façon semblable, je rencontrai un autre vieux soldat. Lui non plus ne fit pas attention à moi quand je passais. Le temps aidant, il commençait à se faire tard dans l'après-midi et je commençais à songer à revenir sur mes pas. Aussi, je fis demi-tour pour rentrer, mais je pus voir qu'un certain nombre de sentiers passaient entre les différents tas et je ne sus avec certitude lequel prendre. Dans ma perplexité, je voulus m'adresser à quelqu'un pour lui demander mon chemin, mais je ne vis personne. Je décidai de continuer quelques pas plus avant et essayai de voir si l'on pouvait me renseigner, mais pas un vétéran. J'atteignis mon but, parce que, après environ 200 mètres, je vis devant moi une sorte de simple cabane semblable à celle que j'avais déjà vue, avec cependant pour différence que celle-ci n'était pas destinée à être habitée, car elle était faite simplement d'un toit et de trois murs, et elle était ouverte sur le devant. À l'évidence, tout me permettait de croire qu'il s'agissait d'un endroit où s'opérait le triage des ordures. À l'intérieur de la cabane se trouvait une vieille femme ridée et recroquevillée par l'âge. Je m'approchai d'elle pour lui demander mon chemin. Elle se leva quand je fus près d'elle et je lui demandai mon chemin. Elle engagea immédiatement la conversation et il me vint à l'esprit qu'ici, au centre même du royaume des ordures, je pouvais recueillir des détails sur l'histoire du métier de chiffonnier, surtout puisque je pouvais le faire de la bouche même d'une personne qui semblait en être l'habitant le plus ancien. Je commençai mon enquête et la vieille femme me donna des réponses fort intéressantes. Elle avait été l'une de celles qui étaient restées assises tous les jours devant la guillotine et qui avait eu un rôle actif parmi les femmes qui s'étaient singularisées par leur violence pendant la Révolution. Au cours de notre conversation, elle dit tout à coup « Mais monsieur doit en avoir assez de rester debout. » Et elle épousseta un vieux tabouret branlant pour que je puisse m'asseoir. Cette idée ne me plaisait pas beaucoup pour plusieurs raisons. Mais la pauvre vieille femme était tellement civile que je ne voulais pas risquer de la blesser en refusant, et de plus, la conversation d'une personne qui avait assisté à la prise de la Bastille pouvait être intéressante. Aussi, je m'assis, et notre entretien continua. Tandis que nous parlions, un vieillard plus âgé, et même plus recroquevillé et plus ridé que la femme, apparut de derrière la cabane.
« Voici Pierre, » dit-elle. « Monsieur peut entendre des histoires maintenant, s'il le veut. » Parce que Pierre était partout, de la Bastille jusqu'à Waterloo. »
Le vieil homme prit un autre tabouret à ma demande et nous plongeâmes dans un océan de souvenirs sur la Révolution. Ce vieil homme, bien qu'habillé comme un épouvantail, ressemblait à n'importe lequel des six autres vétérans. À ce moment, j'étais assis au centre de la cabane, basse de plafond, avec la vieille femme à ma gauche et l'homme à ma droite. Tous deux étaient assis à un pas devant moi. La pièce était remplie de toutes sortes d'objets curieux en bois et de beaucoup de choses dont j'aurais voulu être éloigné. Dans un coin se dressait un amas de chiffons que semblait vouloir abandonner l'abondante vermine qui s'y trouvait, et dans un autre, un tas d'os dont l'odeur était quelque peu repoussante. De temps à autre, jetant un coup d'œil à ces amas, je pouvais voir les yeux luisants de quelques-uns des rats qui infestaient l'endroit. Tout cela était déjà désagréable, mais ce qui me semblait pire encore était une vieille hache de boucher, aux manches en fer recouvert de taches de sang et qui était appuyé contre le mur, à droite. Tout cela ne m'inquiétait pas, cependant, outre mesure. La conversation des deux vieillards était tellement fascinante que je demeurais en leur compagnie, tandis que la nuit tombait et que les tas d'ordures jetaient des ombres profondes dans les espaces qui les séparaient. Après un certain temps, je commençais à me sentir mal à l'aise. Je ne pouvais savoir ni comment ni pourquoi, mais quoi qu'il en soit, je ne me sentais pas en paix. Un malaise est instinctif et à valeur d'avertissement. Les facultés psychiques sont souvent les sentinelles de l'intellect. Et lorsqu'elles donnent l'alarme, la raison commence à agir, bien que peut-être pas consciemment. C'est ce qui se passa en moi. Je commençais à réfléchir à l'endroit où je me trouvais et à ce qui m'entourait, et à me demander comment je pourrais m'en sortir au cas où je serais attaqué. Et puis la pensée me vint tout à coup à l'esprit, bien que sans cause évidente, que j'étais en danger. La prudence me souffla « Reste tranquille et ne fais aucun geste ». Aussi, je restais tranquille et ne fis aucun geste, parce que je savais que quatre yeux rusés me regardaient. Quatre yeux, sinon plus. Mon Dieu, quelle horrible pensée! La cabane pouvait être entourée sur trois côtés par des ruffians. Je pouvais être au centre d'une horde de desperados, telle que seul un demi-siècle de révolution périodique peut en produire. Avec le sentiment du danger, mon intellect et ma faculté d'observation s'aiguisèrent, et je devins plus attentif que d'ordinaire. Je remarquai que les yeux de la vieille femme se tournaient constamment vers mes mains. Je les regardai à mon tour et vis la cause de son regard. Mes bagues. À mon petit doigt gauche, je portais une lourde chevalière, et à celui de droite, un diamant de valeur. Je pensais que, s'il existait un danger, mon premier souci devait être d'écarter tout soupçon. Aussi, je commençai à diriger la conversation sur le milieu des chiffonniers, vers les égouts et les choses qu'on y trouvait, et ainsi, peu à peu, vers les bijoux. Puis, saisissant une occasion favorable, je demandai à la vieille femme si elle avait des connaissances sur de telles choses. Elle me répondit qu'elle en avait un peu. J'étendis ma main droite et, lui montrant le diamant, lui demandai ce qu'elle en pensait. Elle répondit que ses yeux étaient mauvais et se pencha sur ma main. Je dis, aussi nonchalamment que je pus, « Excusez-moi, vous verrez mieux comme ça. » Et, enlevant le diamant, je le lui tendis. Une lueur qui n'avait rien d'une auréole irradia de son visage flétri de vieillarde quand elle toucha la pierre. Elle me jeta un coup d'œil aussi rapide et perçant que l'éclair. Elle se pencha sur la bague pendant un instant, son visage complètement caché comme si elle l'examinait. Le vieil homme regarda droit devant lui, en direction de l'entrée de la cabane, et au même moment, fouillant dans ses poches, il en sortit un cornet de tabac dans du papier et une pipe qu'il se mit à bourrer. Je saisis l'occasion de cette pause et de ce répit momentané, ne me sentant plus observé, pour regarder plus soigneusement la pièce autour de moi, qui était maintenant obscure et pleine d'ombre dans le crépuscule. Il y avait toujours les amas puants et malpropres, la hache terrible tachée de sang s'appuyait contre le mur dans le coin à droite, et partout, malgré l'obscurité, le scintillement calamiteux des yeux des rats. Je pouvais même les voir à travers quelques-uns des interstices des planches, en bas, derrière, au ras du sol. Mais attendez, ces yeux-là semblaient plus grands et plus brillants et plus calamiteux que ceux de l'intérieur. Pendant un instant, mon cœur s'arrêta, et je sentis mon esprit bouillonner. État qui vous fait ressentir une sorte d'ivresse spirituelle, comme si le corps se maintient seulement debout parce qu'il n'a pas le temps de tomber avant qu'il se ressaisisse. Alors, en une seconde, je fus calme, froidement calme, toute mon énergie bandée. Je me contrôlais parfaitement, tous mes sens et l'instinct en alerte. Maintenant, je connaissais parfaitement l'existence du danger qui me menaçait. J'étais guetté et entouré par des gens désespérés. Je ne pouvais même pas deviner combien ils pouvaient être, étalés sur le sol, derrière la cabane, attendant le moment de frapper. Je me savais grand et fort, et eux le savaient aussi. Ils savaient également, comme moi, que j'étais anglais et que, comme tel, je me défendrais. Et ainsi, nous attendions. J'avais, je le sentais, pris de l'avantage depuis quelques secondes, parce que j'avais connaissance du danger et que je comprenais la situation. Maintenant, je me disais que mon courage et mon endurance allaient être mis à l'épreuve. L'épreuve de force pouvait venir plus tard. La vieille femme leva la tête et me dit comme si elle était contente.
« C'est vraiment une belle bague, une magnifique bague. Mon Dieu, vous savez, je possédais autrefois des bagues semblables, en grand nombre même, et des bracelets et des boucles d'oreilles. Oh, pendant ces beaux jours, c'est moi qui conduisais la danse dans la ville. Mais ils m'ont oublié maintenant, ils m'ont oublié. Ils n'ont jamais entendu parler de moi. Peut-être leur grand-père se souviennent-ils de moi, ou tout au moins quelques-uns. »
Et elle eut un rire discordant et croassant. Je suis obligé de dire qu'alors elle m'étonna, parce qu'elle me tendit la bague avec une sorte de grâce qui rappelait les manières d'autrefois et qui ne manquait pas de pathétique. Le vieillard la dévisagea avec un air de férocité soudain. Puis, se levant à moitié de son tabouret, me dit tout à coup d'une voix rauque
« Laissez-moi regarder !»
J'étais sur le point de tendre la bague quand la vieille femme me dit
« Non, 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 ne la donnez pas à Pierre. C'est un vieux fou, il perd tout. Une si jolie bague. »«
Vipère !» dit le vieillard sauvagement.
Puis la vieille femme s'exclama plus fortement que nécessaire
« Attendez, je vais vous raconter quelque chose au sujet d'une bague. »
Il y avait quelque chose dans le ton de sa voix qui m'inquiéta. C'était peut-être parce que j'étais trop impressionnable, énervé que j'étais à ce point d'excitation, mais je crus deviner que ce n'était pas à moi qu'elle s'adressait. Comme je jetais un coup d'œil circulaire dans la pièce, j'aperçus les yeux des rats dans les tas d'os, mais je ne vis plus les yeux des hommes derrière, dans les interstices de la cabane. Mais au moment même où je les cherchais du regard, je les vis paraître de nouveau. Le « Attendez !» de la vieillarde me donnait du répit pour attaquer, et les hommes se recouchèrent de nouveau dans la même posture.
Une fois, j'ai perdu une bague, un magnifique anneau de diamant qui avait appartenu à une reine et qui m'avait été offert par un fermier général qui, plus tard, s'est coupé la gorge parce que j'avais refusé ses avances. Je pensais qu'elle avait été volée et en accusait mes domestiques, mais je n'en trouvais nulle trace. La police est venue et a suggéré que la bague avait fini dans l'égout. Nous sommes descendus, moi, dans mes beaux vêtements, parce que je ne pouvais me fier à eux quand il s'agissait de ma belle bague. Je connais mieux les égouts depuis cette époque, et mieux les rats aussi. Mais je n'oublierai jamais l'horreur de cet endroit, grouillant Dieu brillant, un mur Dieu devant la lumière de nos torches. Et finalement, nous sommes arrivés sous ma maison. Nous avons cherché à l'extrémité de l'égout, et là, dans la saleté, nous avons trouvé la bague et nous sommes sortis. Mais nous avons trouvé autre chose également avant de sortir. Comme nous atteignons l'ouverture, un groupe de rats d'égout, des rats humains cette fois, se sont approchés de nous. Ils ont raconté à la police que l'un des leurs était descendu dans l'égout mais n'en était pas ressorti. Il était rentré seulement peu de temps avant nous et s'était perdu. Il ne pouvait pas être très loin. Ils ont demandé notre assistance pour le trouver et ainsi nous sommes repartis. Ils ont tenté de m'empêcher de les accompagner, mais j'ai insisté. C'était une nouvelle aventure. Et n'avais-je pas retrouvé ma bague? Nous ne sommes pas allés bien loin avant de tomber sur quelque chose. Il y avait peu d'eau, et le fond de l'égout était surélevé avec des briques, des ordures et d'autres choses de ce genre. Ils s'étaient battus, même quand sa torche s'était éteinte. Mais ils étaient trop nombreux pour lui. Il ne leur avait pas fallu beaucoup de temps. Les eaux étaient encore tièdes, mais nettoyées. Ils avaient même mangé leur propre mort. Il y avait des eaux de rats aussi bien que des eaux de l'homme. Ils ont pris la chose assez calmement, les autres, les eaux humains. Et ils ont plaisanté sur leur camarade après l'avoir trouvé mort, bien qu'ils l'eussent aidé s'ils l'avaient trouvé vivant. Bah, qu'importe la vie ou la mort.
« Et vous n'avez pas eu peur ?» lui demandai-je.
« Peur !»
dit-elle en riant.
« Moi, avoir peur ? Demandez à Pierre !» C'est vrai que j'étais plus jeune à l'époque, et quand j'avançais dans cet horrible égout avec son mur Dieu affamé, toujours se déplaçant dans le cercle de lumière des torches, je ne me sentais pas à l'aise. Mais je continuais à avancer au-devant des hommes, c'est ainsi que je fais. Je ne permets jamais aux hommes de me devancer. Tout ce que je demande, c'est d'avoir une occasion et les moyens. Et ils l'ont mangé. Ils ont effacé toute trace, sauf les os. Et personne ne le savait, et personne n'avait aucune nouvelle de lui.
À ce moment, elle eut un accès de gloussement, de la gaieté la plus macabre que j'ai jamais eu l'occasion d'entendre et de voir. Une grande poétesse décrit son héroïne qui chante. « Oh, de la voir ou de l'entendre chanter, je sais à peine lequel des deux est le plus divin. » Cette même idée aurait pu être appliquée à la vieillarde, tout sauf le divin, parce que j'aurais pu à peine dire lequel des deux était le plus infernal. Ou son rire, dur, malveillant, satisfait et cruel, ou le ricanement et l'ouverture horrible et carriée de sa bouche comme un masque tragique, et la lueur jaune de quelques dents décolorées dans les gencives sans forme. Avec ce rire et avec ce ricanement, et la satisfaction gloussante, je savais aussi bien que si l'on m'eût parlé avec des mots tonitruants, que mon meurtre était scellé, et que les meurtriers ne faisaient qu'attendre le moment favorable pour son accomplissement. Je pouvais lire, entre les lignes de son histoire lugubre, les ordres à ses complices. « Attendez, semblait-elle dire, patientez, je frapperai la première. Trouvez-moi l'arme et je saisirai l'occasion. Il ne s'échappera pas. Tenez-le tranquille et personne ne saura quoi que ce soit. Il n'y aura pas de cris et les rats feront leur travail. » Il faisait de plus en plus sombre, la nuit venait. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur de la cabane. Rien n'avait changé. La hache ensanglantée dans le coin, les amas d'ordures et les yeux sur les tas d'os et dans les fentes près du plancher. Pierre s'occupait toujours ostensiblement à bourrer sa pipe, puis il craqua une allumette et commença à tirer sur la bouffarde. La vieille femme dit « Mon cher cœur, comme il fait noir, Pierre, sois assez bon garçon et allume la lampe. » Pierre se leva et, avec l'allumette enflammée dans la main, toucha la mèche de la lampe qui pendait sur l'un des côtés de l'entrée de la cabane et qui, avec son réflecteur, jeta la lumière dans la pièce. Elle était de toute évidence utilisée la nuit pour le triage des ordures.
Pas ça, idiot! La lanterne! Cria-t-elle.
Il éteignit immédiatement la lampe en disant
« Très bien, maman, je la trouverai. »
Et il se rendit rapidement dans le coin gauche de la pièce. La vieille femme dit dans l'obscurité
« la lanterne, oh, c'est la lumière qui est la plus utile à nous autres, pauvres gens. La lanterne était l'amie de la Révolution. Elle est l'amie du chiffonnier. Elle nous aide quand tout le reste nous abandonne. »
Elle avait à peine dit ces paroles qu'on entendit une sorte de craquement dans toute la cabane et quelque chose fut tiré sans un coup sur le toit. De nouveau, je pouvais comprendre à demi-mot. Je connaissais la leçon de la lanterne. Que l'un de vous monte sur le toit avec un nœud et qu'il s'éloigne quand il sortira si nous échouons à l'intérieur. Comme je regardais par l'ouverture, je vis le nœud de la corde se profiler en noir contre le ciel coloré. Maintenant, j'étais piégé. Pierre ne fut pas long à trouver la lanterne. Je gardais les yeux fixés dans l'obscurité sur la vieille femme. Pierre craqua une allumette et je vis la vieille femme prendre à terre à côté d'elle, où il était mystérieusement apparu, il était caché dans les plis de sa jupe, un long couteau affûté. Il ressemblait à un fer à aiguiser de boucher dont la pointe aurait été effilée. La lanterne était allumée.
« Apporte-la ici, dit-elle. Place-la devant la porte où l'on peut la voir. Regardez comme elle est belle. Elle retient l'obscurité. C'est tout à fait ce qu'il faut. »
Tout à fait ce qu'il fallait pour elle et ses desseins. La lanterne jetait toute sa lumière sur mon visage, laissant à l'ombre les visages de Pierre et de la femme, tous deux étant assez loin de chaque côté. Je sentis que le moment d'agir approchait, mais je savais maintenant que le premier signe et le premier mouvement viendraient de la femme. Aussi, je la regardais. Je n'étais pas du tout armé, mais j'avais décidé de ce qu'il fallait faire. Au premier mouvement, je saisirais la hache de boucher dans le coin à droite et me ménagerais une sortie. Au moins, je mourrais bravement. Je jetai un bref regard pour déterminer la place exacte de l'arme, afin de réussir à m'en saisir du premier coup, en ce moment où jamais le temps et la précision étaient précieux. Bon Dieu, elle avait disparu. Toute l'horreur de la situation rejaillit sur moi. Mais la pensée la plus amère de toutes était que, si le résultat de cette situation terrible allait se retourner contre moi, Alice allait infailliblement souffrir. Ou bien elle me croirait infidèle, et tout amant ou toute personne qui a jamais été dans cette situation peut imaginer l'amertume de cette pensée, ou bien elle continuerait de m'aimer longtemps après que moi, j'aurais été perdu pour elle et le monde, de façon que sa vie serait brisée et emplie d'amertume, et réduite en morceaux par la déception et le désespoir. L'ampleur même de la douleur me fortifia et me permit de nouveau de supporter le regard épouvantable de ces comploteurs qui me dévisageaient. Je pense que je ne me trahis point. La vieille femme me regardait comme un chat regarde une souris. Elle avait la main droite cachée dans les plis de sa jupe, serrant, je le savais, son long couteau si sinistre d'aspect. Si elle avait vu une quelconque crainte apparaître sur mon visage, elle aurait, je le sentais, compris que le moment était venu et m'aurait sauté dessus, comme une tigresse, certaine de me surprendre sans défense. Je regardais dehors dans la nuit, et là je vis une nouvelle cause de danger. Devant et autour de la cabane se profilaient à faible distance des ombres noires. Elles étaient certes immobiles, mais je savais qu'elles étaient toutes en alerte et sur leur garde. Il y avait peu de chance pour moi, maintenant, de m'échapper dans cette direction. De nouveau, je jetai un regard circulaire dans la cabane. Dans les moments de forte émotion et de grand danger qui provoquent l'émotion, l'esprit fonctionne très rapidement et l'acuité des facultés dépendant de l'esprit augmente en proportion. C'est ce qui se passa à ce moment. En un instant, je compris toute la situation. Je me rendis compte que la petite hache avait été sortie par un trou fait dans l'une des planches pourries et à quel point celle-ci l'était pour qu'une telle chose puisse être faite sans le moindre bruit. La cabane était un piège à tuer en règle et était gardée de tous côtés. Un homme, un garrot à la main, était allongé sur le toit, prêt à me prendre dans son nœud coulant si j'arrivais à échapper au couteau de la vieille sorcière. Devant moi, le chemin était gardé par je ne savais combien de sentinelles, et derrière la cabane attendait une rangée d'hommes désespérés. J'avais de nouveau vu leurs yeux à travers l'interstice des planches au niveau du sol, quand j'avais jeté un dernier regard, tandis qu'ils étaient couchés en attendant le signal pour sauter sur leurs pieds. Si jamais je devais faire quelque chose, c'était le moment. Aussi nonchalamment que je pus, je pivotai légèrement sur mon tabouret afin de placer ma jambe droite bien sous moi. Alors, d'un saut soudain, tournant la tête tout en la protégeant de mes mains ému par l'énergie des chevaliers du Moyen-Âge, je prononçai le nom de ma dame et me jetai contre le mur du fond de la cabane. Aussi vigilant qu'ils le fussent, la soudaineté de mon geste surprit tout autant Pierre que la vieille femme. Tandis que je fracassais les planches pourries, je vis la vieille femme déroutée se lever d'un bond comme une tigresse et entendis son faible halètement de rage. Mes pieds se posèrent sur quelque chose qui bougeait, et en sautant plus avant, je sus que j'avais mis mes pieds sur le dos de l'un de ces hommes couchés sur le ventre à l'extérieur de la cabane. Je m'étais écorché à des clous et à des échardes de bois, mais je n'étais pas blessé. À bout de souffle, je grimpais sur le monticule devant moi, entendant, tout en montant, la chute amortie de la cabane, tandis qu'elle s'effondrait comme une masse.